Alors, je vais vous présenter la première intervenante, Isabelle Boisclair, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches s'intéressent aux théories féministes, à l'écriture des femmes, à l'identité des sexes et des genres, à la littérature québécoise et à la sociologie de la littérature. Elle a publié en 2008, entre autres, un ouvrage intitulé « Nouvelle masculinité, l'identité masculine et ses mises en question dans la littérature québécoise ». Elle a un livre qui sort bientôt, oui, qui vient d'arriver, je pense, chez Remue Ménage. Fait en collaboration avec Catherine, qu'on va entendre plus tard aussi. Femme désirante, art, littérature, représentation, c'est ça? Voilà. Et aujourd'hui, elle nous présente un texte qui s'intitule « Elle souffre ou elle jouit, plainte contre X » de Karine Bernfeld.
Merci beaucoup, Martine. Merci à Samuel et Audrey pour l'organisation de cette journée. C'est vraiment fantastique de pouvoir parler de ça. Mais on a l'impression d'être au centre du monde ici, le pavillon avec les fenêtres de chaque côté, c'est vraiment... Dans son Histoire de la sexualité, Michel Foucault considère la sexualité comme, je cite, « un point de passage particulièrement dense pour les relations de pouvoir ». Depuis peu, de nombreuses femmes se donnent le droit de représenter la sexualité, s'approprient le discours pornographique, le recadrant, tentant d'enrayer les relations de pouvoir qu'ils traversent. Elles dessinent ainsi une porno-féministe, une post-porn qui veut radicalement couper avec des fondements phallocentriques des usages esthétiques du sexe. Si jusqu'ici la critique a surtout porté sur la dissymétrie des représentations, ce n'est pas là le seul lieu où s'exercent les rapports de pouvoir. Selon Tristan Taormino, activiste féministe et réalisatrice de films pornographiques, je cite, « La pornographie féministe explore les notions de désir, de beauté, de plaisir et de pouvoir à travers des représentations, des esthétiques, mais aussi des moyens de production alternatifs. Elle cherche à conférer du pouvoir et de l'agentivité aussi bien aux acteurs et actrices qu'aux spectateurs et spectatrices. Elle poursuit, les pornographes féministes sont engagés dans la voie de l'équité des sexes et des genres et de la justice sociale. La pornographie féministe est une pornographie produite sur des bases éthiques, ce qui implique que les acteurs et actrices sont payés équitablement et qu'ils et elles sont traités avec respect et considération. Leur consentement, leur sécurité, leur confort sont prépondérants et leur rapport aux productions doit être non seulement considéré, mais valorisé. C'est une traduction libre de moi-même. Il semble certes plus en phase sur l'horizon postmoderne d'énoncer des discours inédits, de déployer de nouveaux scénarios imaginaires pour faire advenir les changements, que de dénoncer les travers de la tradition pornographique. Mais cela n'annule pas la persistance d'une industrie phallocentrée, car cette industrie prolifère toujours. C'est donc à la dénonciation de la violence persistante dans les moyens de production que s'attelle « Plainte contre X » de Karine Bernfeld. Publié en 2013, ce monologue théâtral, véritable manifeste anti-pornographie, fait entendre Estelle, devenue Roxane Wolfe, actrice de film X. Je cite « J'ai grandi dans la pornographie, j'ai vu mon premier film à 10 ans, à 12 ans, j'étais accro, mes doses d'images, drogue vomitive, et à 17 ans, mon premier tournage. » Fin de citation. C'est à partir du motif de la plainte, ensuite de la figure des agresseurs, c'est X, que je veux examiner la violence subie par les corps dans le texte de Bernfeld. Je cite Ruel Ogyen dans « Penser la pornographie », « Ce qui est moral peut être illégal, et ce qui est immoral peut être légal. » Même si ce n'est pas en termes moraux que je veux poser ici le problème, plutôt en termes éthiques, à l'instar de Taormino, le syllogisme qu'Ogyen soulève est évident. Le problème n'est pas la moralité ou la moralité, donc avec un A privatif. Le problème, c'est la légalité. En l'occurrence, ici, la légalité de la violence qui sévit sur les plateaux de tournage des films pornographiques et qui échappe à la loi. C'est précisément cette impunité des violences pornographiques que soulève Bernfeld. Lorsque visitée par Estelle, les sites pornographiques deviennent, je cite, des sites de filles violentées, torturées, fin de citation, car elle sait de quoi il retourne. Le texte énumère de nombreuses actions violentes. En premier lieu, celles visant à briser les jeunes filles. Je cite, bâillonnées et torturées, attachées plusieurs jours dans une pièce sombre, privées d'eau et de nourriture. Le dressage, ça s'appelle. S'ensuit ensuite le dépucelage. Une boucherie, selon la gynéco, qui prescrit à Estelle Roxane la contraception d'urgence. Puis les sévices s'enchaînent, suscitant un réel malaise. Sont évoquées diverses tortures, j'en cite quelques-unes. Étouffée, elle s'évanouit, on la ranime avec des gifles. Pute, salope, chienne. ailleurs, elle est brûlée à la cire. Sur une photo, Roxane est à quatre pattes, on voit cinq mecs autour, ils l'enculent les uns à la suite des autres, un ou deux d'un coup. Faut remplir la chatte, l'anus, elle va crier, appeler à l'aide, une bite s'enfonce dans sa bouche pour la faire taire. Ça continue, on enfonce un point dans son vagin, un autre dans l'anus, un troisième, faut enfoncer, bourrer, hémorragie. Il arrive que, violentée, l'actrice se retrouve à l'hôpital, je cite, du sang plein le visage. Pour eux, c'était la réussite, on l'a déchirée. Car sur les tournages, je cite, « ça saignait, mais c'était coupé au montage ». La violence n'est pas que physique, elle est aussi psychologique et symbolique. Elle provient parfois de l'abjection, je cite, « les déchirures et les excréments que X force des gamines à avaler dans des sous-sols. Une dizaine la baise et ils lui pissent dessus. » Enfin, les gestes sont accompagnés d'injonctions tout aussi violentes. « Pute, chienne, salope ». Qui meuble l'arrière-plan sonore et ponctue le monologue. Ça revient vraiment souvent. C'est indiqué que c'est Andy Daskali, mais dans sa préface, l'auteur suggère au metteur ou à la metteur en scène que puissent être entendues ces injonctions. Assujetti à cette violence, le sujet la retourne bientôt contre lui-même, pratiquant l'autoscarification, ses mutilations consenties, qui la distinguent, déplaisant à certains producteurs, mais plaisant à d'autres. Marques qui inscrivent sur son corps à la fois les traces de l'appartenance à l'industrie, à la fois la violence elle-même. Cette violence devient bientôt un lien de filiation entre les femmes de l'industrie. Est rappelée à la mémoire la pionnière Suzanne Borman, qui, sous le pseudonyme de Linda Lovelace, fut du légendaire Deep Throat, Gorge profonde, en 1972, qui est considéré comme le premier film pas pornographique de l'histoire, bien sûr, mais de l'industrie pornographique moderne. Pour certaines, cette violence va jusqu'à l'anéantissement, comme c'est le cas de trop nombreuses victimes de slut-shaming, parmi lesquelles Karine Bachun, citée dans le texte. Je cite, « violée par quatre de ses camarades, ensuite, pendant des mois, elle se fait insulter en cours, par téléphone et sur Internet. Filles et garçons la traitent de tous les noms, pute, salope, chienne. On la retrouve pendue dans sa chambre. » D'ailleurs, le monologue tout entier est dédié à Karen Bach, actrice porno, notamment connue pour avoir joué dans « Baise-moi », le film de Virginie Despentes et Caroline Trinity. Quelque temps avant de s'enlever la vie, Karen Bach témoignait de cette violence, non seulement représentée à l'écran, mais au cœur des instances de production. Je cite, « double peinée par moins 5 degrés, suivie d'une éjaculation, couverte de sperme, trempée, morte de froid, personne ne m'a tendu une serviette. Une fois que tu as tourné ta scène, tu ne vaux plus rien. » Au final, les techniques, les motifs et les figures de la porno paraissent intrinsèquement violents. Le nom des procédés en témoigne. La démolition, c'est le nom, c'est ce rayon. L'abattage, ça s'appelle vraiment comme ça. Alors, elle souffre ou elle jouit? Cette question posée dès la première page, donc dès les premières minutes de la pièce de Bernfeld, est motivée par l'audition de cris que les indications scéniques suggèrent de faire entendre en bande sonore. Notons que l'auteur, je l'ai dit tantôt, laisse pleine liberté au ou à la metteur en scène, suggérant que les didascalies puissent être dites. C'est cri, gémissement, c'est toujours ça qui est écrit, cri, gémissement, reviennent ponctuer le monologue à de nombreuses reprises, on ne peut pas les oublier. La question peut conforter, puisqu'elle laisse la possibilité que le cri en soit un de jouissance. Mais le récit des corps brutalisés ne laisse aucun doute, ces cris et gémissements expriment une plainte. Et ce qu'invoque aussi la plainte, c'est le fait de porter plainte contre quelqu'un. Or, contre qui porter plainte? Quand les X, c'est quasi tous les hommes. En effet, le X du titre désigne aussi bien l'industrie du film porno que les hommes qui ont violenté Estelle Roxane, tous anonymisés en même temps qu'assimilés en une seule et même entité. X, c'est à la fois, j'en cite quelques-uns, mais le texte est plein de X. Celui qui l'a suivie dans la rue quand elle était à l'école primaire. X, celui qui m'a dépucelée. L'homme qui l'a violée. X, le producteur, le scénariste. X, c'est aussi l'acteur ou le regardeur. Je cite, « dans la cuvette des chiottes, on plonge son visage, on tire la chasse d'eau, X éjacule en même temps. » Aussi bien dire qu'à travers ce X, c'est toute la culture du viol que Bernfeld identifie, contre laquelle elle porte plainte. X est enfin et surtout le sujet des actions violentes. Je cite, X lui écrase le visage avec son pied, X lui donne des fessées, X l'encule, X frappe, X introduit ceci, cela. Bientôt, le X, c'est elle-même, car la porno est, je cite, dans son sang qu'il coule dans ses veines. Au-delà de ces X, quelques hommes sont identifiés, sinon par leur nom, par leur statut. Je cite « Papa a été le premier ». Papa, je revis mon viol, je revis ma première fois, mon premier shoot, ce moment où je sors définitivement de mon corps. Le pape a dit, il faut pardonner, pardonnons à papa, à ceux qui nous ont offensés, pauvres pécheurs que nous sommes. Le pape a dit, papa a dit, pardonnez, passez à autre chose, donc ne pas porter plainte. C'est donc bien le patriarcat, figuré ici par le père et le pape, que la plainte vise. Or, si ce sont les lois patriarcales qui sont désignées, avec quelles lois les dénoncer? D'autant qu'une autre loi intervient, celle de l'offre et la demande. L'offre et la demande, ça aussi, ça ponctue vraiment le texte de Bernfeld comme un rappel constant, car patriarcat et capitalisme vont de pair. D'autres lois encore, celle du X lui-même, de l'industrie elle-même. Ici, il est question des règles pour être une bonne salope, donc des règles comme autant de lois auxquelles s'appliquer, se soumettre. Ce qui est en cause, c'est l'impunité du X. Car le contrat du X octroie une licence totale pour ce qui justifierait autrement une poursuite légale. Je cite, « Avec le contrat du X, la même chose est un film qui se vend bien. Pourtant, il s'agit bien de, je cite, « non-assistance à une personne en danger. Mais personne ne sera jamais condamné, car ce ne sont que des faits divers, n'est-ce pas, ce que la forme utilisée pour présenter en rafale plusieurs cas suggère. » Je cite, « Une call girl se fait troncher dans un grand hôtel. » Maintenu fermement par les poignets. X lui tire les cheveux, des claques et une sodomie forcée. C'est pas du viol, c'est une pute. Affaire classée. Près de Paris, l'adolescente sert à des dizaines de mecs de la cité. Pour terminer sur Acreil, à Créteil, Vancouver, Oslo, des pays civilisés. Il n'y aura jamais de procès. Trop de prévenus. Ils sont prévenus tous maintenant. Tous prévenus, tandis qu'elle est marquée par l'impuissance. Je cite, « Ce jour-là du dépucelage, je n'ai pas été dénoncé X. » Ce que nous dit le texte sur la violence, c'est qu'elle est précisément légiférée à travers la loi du père, du pape, la loi capitaliste, la loi de la bonne salope transmise dans tous les magazines pour adolescentes. Il arrive qu'Estelle la retourne contre eux, mais ici, par la seule violence de l'écriture qui laisse les corps intacts. Ces pulsions violentes à elles sont velléitaires, elles en restent au fantasme. Je cite, « Je pourrais égorger X, je pourrais couper la queue des exhibitions. » Ce sont des fragments que j'ai rassemblés, là, ce n'est pas un texte, un bloc. « Je pourrais égorger X, je pourrais couper la queue des exhibitionnistes qui m'ont fait vomir. Je flinguerais volontiers à bout portant celui qui avait 24 ans quand je l'ai connu, m'a harcelé, insulté et envoyé pendant des années des menaces de mort. » Je tuerais X, celui qui m'a dépucelé. Mais à bien y penser, c'est peut-être le réalisateur qu'il faudrait aller buter en premier, lui qui s'impatiente lorsqu'il faut arrêter de tourner et éponger. Je pourrais vouloir les buter moi aussi, ces hommes, à mon tour de les détruire en leur affonçant des très gros trucs dans leur trou. La seule chose qu'ils méritent, elle parle du dépuceleur, une balle dans la tête pour le faire disparaître de cette terre. Tu comptes éliminer ainsi tous ceux que tu estimes nuisibles? Oui. Ça risque de faire du monde. C'est vrai, la liste est longue. Je pourrais tenter de supprimer un par un tous ceux qui m'ont violé, tué, prostitué, tous ceux qui m'ont écartelé, égorgé. Le problème, c'est qu'il y en a des milliers. Et si l'on ajoutait leurs complices, tous ceux qui ont assisté à mon exécution pour se branler, les coupables qui m'ont assassiné, il y en a des millions. Voilà, Bernfeld porte plainte contre des millions. Cas intraitable pour le juridique, elle s'y attaque par le théâtre. Dans le travail pornographique Enquête sur la production de fantasmes, Mathieu Trachman soutient que l'organisation du travail pornographique favorise, je cite, les dénégations de la violence au travail. Dans ce cadre, la dénonciation d'une violence sexuelle semblerait incongrue puisqu'une promiscuité s'installe, produisant l'illusion d'un travail familial entre proches. La description des violences, les cris, les gémissements qui se font entendre tout au long de la pièce, les injures, putes, chiennes, salopes, l'évocation appuyée des lois forment la plainte de Bernfeld qui insiste sur le caractère impuni des violences proférées par des hommes sur des femmes dans l'industrie de la porno. Or, ce n'est pas la pornographie en tant que telle en soi qui est violente. Elle pourrait ne pas l'être. C'est, en l'occurrence, la violence machiste qu'il faut mettre au banc des accusés. Ruben Ogyen soutient, dans l'état actuel de sa production et de sa diffusion, la pornographie présente certains aspects socialement répugnants. Surexploitation, misogynie militante, cynisme total des fabricants et des distributeurs, prêts à tout pour augmenter leurs profits. Mais il ne s'agit pas de pathologies sociales spécifiques, puisqu'on les retrouve un peu partout. Fin de citation. En effet, c'est la culture patriarcale qui imprègne la socioculture. Et dans un procès, il importe de bien identifier les coupables, ne serait-ce que pour éviter d'accuser des innocents. Ici, le capitalisme et le patriarcat et la misogynie sont les coupables qu'il faut pourtant nommer. La sexualité est innocente, pourrait-on dire, peut-être même son spectacle aussi. C'est en ce sens que OGN pose la question. Pourquoi la dénonciation des conditions de production de la pornographie aboutit, la plupart du temps, à la condamnation de la pornographie et non à la revendication de meilleures conditions de travail pour les travailleurs et travailleuses de cette industrie? Fin de citation. Cela dit, il se pourrait bien aussi qu'une fois débarrassé des effets spectaculaires et dramatiques du pouvoir, que seraient vraiment défalqués tous les traits visant à dramatiser le rapport, notamment autour du corps féminin comme objet à prendre, la pornographie n'existe plus, qu'elle ne trouve plus sa raison d'être. Qui voudrait voir le spectacle de deux corps faisant l'amour dans une version non mise en scène pour susciter l'excitation? Que les mouvements de dénonciation de la porn traditionnelle et dénonciation d'une nouvelle pornographie soient concomitants est tout à fait bien, parce que la violence patriarcale a toujours cours et il apparaît que les deux opérations, énoncer de nouveaux scripts, dénoncer de vieux scénarios, sont toutes deux nécessaires parce qu'elles sont irrémédiablement complémentaires. L'une n'a pas à succéder à l'autre, car si c'est dès maintenant qu'il fallait commencer à imaginer d'autres conduites sexuelles plus équitables, c'est en identifiant les coupables, les repères à ne pas reproduire, peut-être qu'on y arrivera. Ce qui est dénoncé, c'est donc le traitement des travailleuses, mais surtout l'impunité des agresseurs, ce que l'inscription répétée des lois dans le texte inscrit. C'est pour cette raison qu'il importe de ne pas imposer les discours, de ne pas opposer les discours ni les œuvres. Elles parlent toutes de la même chose, l'usage des corps féminins, et elles appellent l'éthique. À l'instar des avancées réflexives réalisées par les féministes qui se penchent sur la sexualité, la porno et la prostitution, pour tenter de mieux y voir clair, il est possible de repenser hors morale la représentation de la sexualité où les corps pourraient faire ce qu'ils ont à faire, jouir et exulter, et non pas souffrir. Mais pour qu'une pornographie éthique, une prostitution éthique aussi, pourquoi pas, puisse exister, il faut que soit effacé le background patriarcal, que soit équitable non seulement le rapport de pouvoir entre les sexes, mais aussi la distribution des ressources, des richesses et des savoirs, aussi bien dans sa structure de production que dans ses représentations. La pornographie est un instrument de domination, mais elle peut aussi peut-être être un instrument de libération. Il y a donc des pornographies, ce qu'il faut peut-être rappeler, ne serait-ce que pour préciser que ce qu'on appelle la pornographie n'est pas intrinsèquement violente. Ce sont ses fondements phallocentrés qu'ils sont. La pornographie est certes une technologie du genre, pour reprendre les mots de Teresa de Loretis, mais en tant que technologie, elle peut être maniée de différentes façons, dans différentes visées. Et s'il est vrai qu'il impose d'énoncer de nouvelles histoires sexuelles portées par des valeurs éthiques, il importe tout autant de dénoncer les actualisations contemporaines qui reconduisent les vieux poncifs de façon à dégager la pornographie des schémas que lui a imprimé la violence patriarcale. En d'autres mots, il importe de dénouer les fils qui la relient à la violence machiste et la délier des amalgames qui la figent comme un lieu de violence contre les femmes, notamment autour de cette idée du caractère irrépressible et prépondérant du désir masculin et son nécessaire corollaire, l'inexistence du désir féminin. À défaut de porter plainte, le texte fait entendre des plaintes, des cris, des gémissements, et suggère une réponse sans ambiguïté à la question « Est-ce qu'elle souffre ou elle jouit ?» Elle souffre, ils jouissent. Merci beaucoup.